Nous lisons dans l'Épître à Tite au chapitre 3. Rappelle-leur d'être soumis aux principautés et aux autorités, d'être obéissant, d'être prêt à toute bonne œuvre, de n'injurier personne, de n'être pas querelleur, mais modéré, montrant toute douceur envers tous les hommes. Nous étions nous aussi autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à diverses convoitises et voluptés, vivant dans la malice et dans l'envie, haïssables, nous haïssant l'un l'autre. Mais quand la bonté de notre Dieu Sauveur et son amour envers les hommes sont apparus, il nous sauva, non sur le principe d'œuvres accomplies en justice, que nous eussions faites, mais selon sa propre miséricorde, par le lavage de la régénération et le renouvellement de l'Esprit Saint, qu'il a répandu richement sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, ayant été justifiés par sa grâce, nous devinssions héritiers selon l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu insistes sur ces choses, afin que ceux qui ont cru Dieu s'appliquent à être les premiers dans les bonnes œuvres. Ces choses sont bonnes et utiles aux hommes. Mais évite les folles questions et les généalogies, et les contestations, et les disputes sur la loi, car elles sont inutiles et vaines. Rejette l'homme sectaire après une première et une seconde admonestation, sachant qu'un tel homme est perverti et pêche, étant condamné par lui-même. Quand j'enverrai Artémas auprès de toi, ou Tichique, empresse-toi de venir auprès de moi à Nicopolis, car j'ai résolu d'y passer l'hiver. Accompagne avec soin Zénas, le docteur de la loi, et Apollos, afin que rien ne leur manque. Que les nôtres aussi apprennent à être les premiers dans les bonnes œuvres pour les choses nécessaires, afin qu'ils ne soient pas sans fruit. Tous ceux qui sont avec moi te saluent. Salue ceux qui nous aiment dans la foi. Que la grâce soit avec vous tous.
Avant qu'on commence le chapitre 3, je voudrais donner un avertissement. J'espère qu'il ne sera pas trop négatif. On a vu au chapitre 2, au verset 5, que les jeunes femmes soient occupées des soins de la maison. Et on a la note petit b qui nous dit « gardant la maison ». Alors, c'est pas réservé aux femmes, c'est aussi aux maris, mais dans la maison, la maison, c'est un havre de paix qui est à l'abri du monde et ça doit le rester. Il y a des choses qui pénètrent dans les maisons par le biais de l'ordinateur, par le biais du portable, par le biais de livres impurs. Et le rôle des parents, c'est de veiller à ce que rien ne rentre dans la maison qui va troubler cette paix du foyer chrétien. Nous sommes responsables de ce qui rentre dans la maison. Et le Seigneur nous demande de veiller à cela pour que l'on garde une ambiance chrétienne à la maison. C'est un antipoison par rapport à ce que l'on vit dans le monde. Dans le monde, on entend beaucoup de souillures. La maison, c'est un lieu où on doit retrouver la paix avec le Seigneur, où il y a une ambiance d'amour, où chacun a sa place. Alors, ce n'est pas que les enfants qui peuvent amener des choses du monde dans la maison. Ça peut être nous aussi. Donc, il nous faut veiller à ce que dans la maison, ce soit vraiment un lieu sanctifié.
Il y a un serviteur de Dieu, il y a de très nombreuses années, qui à un âge avancé a pu dire cette chose au sujet de la maison où il avait vécu, c'est remarquable. Il a dit ceci, à la maison, c'était presque le ciel. Il y avait une maman qui avait la crainte de Dieu dans son cœur. Un beau témoignage, n'est-ce pas? Un serviteur de Dieu bien âgé a rendu au sujet de sa chère maman. Et hier, pour ceux qui étaient là, et ce matin encore, pour nous tous, nous avons entendu, on peut le dire, les appels de la grâce du Seigneur. On l'a chanté dans un cantique. Ce matin, c'est lui qui nous a tracé un chemin d'une incomparable grandeur. On le disait tout à l'heure entre quelques frères, Dieu ne sera glorifié par les siens, ses enfants, sur la terre, si quelque chose de Christ est reproduit dans leur vie. Et chère jeunesse, chers enfants, chers frères et sœurs, nous aimons à le redire parce que je pense que nous l'éprouvons tous, chacun dans notre mesure. Nous avons un très bon maître, un sauveur merveilleux. Il ne fait jamais défaut. Il n'a jamais déçu ceux qui se sont confiés en lui. Et ceux qui sont plus âgés ici pourraient en rendre témoignage que de foi. Il nous a tendu la main pour nous relever, alors que peut-être nous étions en train de broncher. Et le Seigneur nous a parlé, et il nous parle. Ces versets sont éminemment pratiques, mais cela a été souligné, on aime à le rappeler. C'est la grâce de Dieu qui nous enseigne. Et il est bon que le cœur soit affermi par la grâce.
Juste un mot sur le verset du chapitre 2, peut-être le seul verset, je ne crois pas qu'on ait dit quelque chose ce matin. Le verset 9 sur les esclaves, exhorte les esclaves à être soumis à leur propre maître, à leur complaire en toutes choses, n'étant pas contredisant, ne détournant rien, mais montrant toute bonne fidélité, afin qu'ils ornent en toutes choses l'enseignement qui est de notre Dieu Sauveur. Alors, on n'est pas sous un... On comprend qu'à cette époque-là, il y avait des esclaves qui s'étaient convertis, et qui vivait avec des maîtres païens. Alors, il y avait peut-être certains maîtres qui se sont convertis, on pense à Philémon, mais bien sûr, mais c'était certainement pas la majorité. Et bien des esclaves chrétiens, et bien travaillaient pour des maîtres païens. Et bien, il y avait cette exhortation qui était là, voilà, il faut que ces esclaves, ces serviteurs chrétiens soient des modèles parmi les autres, se distinguent complètement des autres qui avaient certainement des conditions difficiles, tendance à mentir, à détourner des choses, qui avaient ce caractère-là, et bien... Il y a là cet enseignement pour dire, eh bien, soyez exemplaires, des modèles dans votre comportement, dans votre fidélité. Alors, la grâce de Dieu fait que nous n'avons plus d'esclavage dans nos pays aujourd'hui, mais il me semble qu'on peut, sans se tromper, transposer ça à la condition dans laquelle on est aujourd'hui. Et pour beaucoup d'entre nous, qui avons des patrons, des chefs, on est tous très souvent passés sous l'autorité d'autrui, comme dit la parole. Et c'est pas toujours facile, et beaucoup d'entre nous sûrement pourraient rendre ce témoignage que parfois c'est pas simple d'être fidèle dans ces relations-là. Eh bien, il y a cet enseignement qui est là à ce sujet. Et ce sur quoi je voulais insister, c'est quels vont être les résultats de cela. C'est qu'en fait, cette conduite, cette manière de se conduire, cette fidélité du serviteur ou de l'employé ou du salarié chrétien, on pourrait dire aujourd'hui, quel est le résultat de cela? Cela orne en toute chose l'enseignement qui est de notre Dieu Sauveur. Cette notion d'ornement, elle est assez belle. C'est comme si c'était quelque chose qui mettait en valeur. Si on prend l'exemple d'un tableau, si vous prenez un tableau de maître superbe, un Cézanne, un Van Gogh, un tableau magnifique, et puis que vous le mettez dans un coin d'une remise un peu sombre, par terre, avec de la poussière autour, personne ne va y prêter attention, alors que l'œuvre là, elle est parfaite, elle est parfaite. C'est une œuvre humaine, mais on comprend la pensée. Le tableau est splendide, c'est un chef-d'œuvre, mais il va être complètement ignoré, peu visible. Si par contre ce tableau est mis sur un mur à la bonne hauteur avec le bon éclairage et puis qu'on va mettre autour de ce tableau un cadre peut-être qui attire un peu, le cadre en lui-même n'est rien, c'est l'œuvre qui compte. Mais le cadre qui va être là autour, pourquoi on met des beaux cadres au tableau, souvent c'est parce que quelque chose qui va attirer l'œil, qui va comme embellir, qui va attirer l'attention sur le tableau. Et il me semble qu'il y a quelque chose de ça, l'enseignement qui est de notre Dieu, il est dit d'ailleurs de notre Dieu sauveur. Ça fait penser à l'Évangile, à la parole de Dieu, à tout ce qu'on peut recevoir comme enseignement, et en particulier l'Évangile, puisqu'il parle là du Dieu sauveur. C'est comme si on disait, ben voilà, cette façon de se conduire, ça va orner l'Évangile, ça va le rendre visible, ça va le rendre crédible. On a, Benjamin a cité tout à l'heure, voilà votre vie crucifère, que j'entends pas l'Évangile que vous me dites, tellement il y a des choses dans votre vie qui vont pas. C'est le contre-exemple complet de ce qu'on est appelé à vivre là. Et au contraire, une fidélité par rapport aux gens du monde, dans notre travail, dans notre comportement, va être quelque chose qui va comme attirer vers l'Évangile par peut-être des choses, une parole qu'on va pouvoir dire à un moment donné qui pourra être entendue parce que notre conduite aura été en harmonie avec ces choses-là. Alors c'est un encouragement pour nous que notre conduite orne l'enseignement qui est de notre Dieu sauveur.
Si on transpose en effet ce qui est dit aux esclaves à nos relations professionnelles de patron à employé, tous ceux qui sont dans la vie professionnelle savent que c'est pas toujours facile de parler du Seigneur à son patron. On a dit que c'était plus facile de donner un calendrier à un employé qu'à son patron. Mais on n'est pas forcément très fort pour leur parler du Seigneur. Mais il y a ici, comme on le disait, un tableau, c'est-à-dire quelque chose qui montre notre foi. Et on a aussi dans la première épître de Pierre, quand il nous est dit qu'il soit gagné sans la parole. Alors, on n'est pas peut-être très fort pour parler du Seigneur dans notre milieu professionnel, mais vous ne pouvez même pas obliger quelqu'un de lire le calendrier que vous lui avez offert, ni le traité d'évangélisation que vous lui avez offert, vous ne pouvez pas l'obliger à le lire. Mais ce qu'il est obligé de voir, c'est l'Évangile lorsqu'il est vécu dans la vie de quelqu'un. Ça, il est obligé de voir. Et c'est bien ce qu'on a dans Pierre, qu'il soit gagné sans la parole. On imagine un mari qui dit, tu me rabats les oreilles avec ton évangile, maintenant il y en a marre, tu m'en parles plus. D'accord, mais en même temps, il est obligé de voir l'évangile vécu dans la vie de sa femme. Et on peut le dire aussi pour nous, par rapport à notre milieu professionnel, pour ceux qui sont dedans, eh bien, on n'est pas très fort pour parler du Seigneur, mais on peut peut-être illustrer, orner l'enseignement qu'on ne peut pas donner, mais illustrer l'Évangile par notre conduite, sans la parole. On ne peut pas leur citer la parole, mais on peut leur montrer. C'est aussi cette soumission qu'on a au chapitre 2, on l'a aussi au début du chapitre 3. Nous savons comment le Seigneur a été parfaitement soumis. On sait bien que quand il était devant le souverain sacrificateur l'a juré de répondre. On sait que le souverain sacrificateur a été complètement défaillant à sa fonction, il a déchiré ses vêtements, on sait qu'il a accepté des faux témoins, le témoignage de faux témoins, le Seigneur lui s'est soumis. Il s'est soumis à une autorité qui paraissait inique et qui pourtant, le Seigneur s'est soumis. Je t'adjure, la parole d'adjuration, eh bien le Seigneur y a répondu, se soumettant à un pouvoir aussi inique que cela. On a tous eu la crise des gilets jaunes. Là, nous voyons ce qu'est l'homme dans la chair qui est toujours montrant son insatisfaction et sa révolte. Nous sommes par nature. Après, nous l'avons en particulier, la manière dont la révolte sourde dans le cœur. Mais quel témoignage il y a lorsque quelqu'un manifeste un esprit content, un esprit satisfait, un esprit non revendicateur? Ça, c'était un témoignage. Et pour les gens du monde, c'est quelque chose d'incompréhensible. Parce que, comme Pascal le disait, dans chaque cœur d'homme, il y a un grand vide en forme de Dieu, et cela donne l'insatisfaction. Mais montrer, comme l'apôtre Paul le montre pourtant dans des circonstances qui n'étaient pas forcément favorables, il était en prison dans les Philippiens disant « J'ai appris à être content en moi-même, pas dans les circonstances, en moi-même. » Il avait une joie que personne ne lui enlevait Et c'est dans la mesure où nous serons nourris de cette joie, dans la mesure où nous réjouirons dans tout ce que nous avons en Christ, que les choses de la terre, même les injustices, vous travaillez, on voit des injustices, on en voit tous les jours, on en voit dans le milieu professionnel, on en voit partout des injustices, mais que notre soumission ne dépende pas de cela, en disant « c'est pas juste », non, c'est comme ça, le monde suit son train, mais que nous puissions manifester malgré tout une soumission telle que le Seigneur nous en a donné l'exemple.
C'est d'autant plus frappant quand on lit ce début de chapitre 3, que quand Paul écrit cette épître à Tite, on l'a dit au début de cette étude, c'était plutôt vers la fin de sa vie. À un moment donné, il avait déjà vécu une captivité, il avait vécu beaucoup, il avait été élu en but à des autorités très hostiles aux chrétiens, et pourtant, il appelle à être soumis. D'ailleurs, c'est pareil pour Pierre dans ses épîtres aussi. Il appelle aussi à être soumis aux autorités, alors qu'on voit aussi comme Pierre a pu être victime d'autorités très défavorables aux chrétiens, à être réduits. Et pourtant, il y a cet appel-là, et je pense que pour nous qui vivons dans un pays où on a des autorités, on le vit aujourd'hui, qui nous permettent de nous réunir, ça nous rend peut-être d'autant plus responsables dans les choses sur lesquelles nous avons à être soumis, parce que ce sont les règles qui nous sont données, d'être aussi irréprochables sur ce plan-là. On peut donner plein d'exemples, mais des fois, on peut être même dans les conversations qu'on a, parce que ce début de chapitre nous parle de nos relations avec dans toutes les personnes que l'on côtoie dans ce monde. Si, je sais pas, on décide de passer de 90 à 80 km/h et qu'on est là à dire avec ses collègues, mais quand même, c'est insupportable, des choses comme ça, comment accepter? Voilà, là, c'est des toutes petites choses. On peut penser qu'aujourd'hui, on a des frères, des sœurs qui vivent dans des pays. Par contre, ils sont en but à des autorités hostiles, où c'est bien différent. On avait des échos récemment, par exemple, de nos frères indirectement, de nos frères en Russie, qui se retrouvent avec des autorités qui les mobilisent pour aller faire une guerre contre filles potentiellement d'autres chrétiens. Et là, les exercices sont bien différents. Et en remontant à une ou deux générations, on peut penser aussi à plein des frères qui ont aussi dû être confrontés à des exercices bien plus difficiles. Et on peut y penser en lisant ces deux, trois premiers versets, parce que ça nous appelle à, dans le monde qui nous entoure, ça veut dire pour nous, avec nos collègues de travail, avec nos voisins, pour les enfants aussi à l'école, les amis au collège, au lycée, peut-être aussi ceux qu'on va croiser dans la rue, celui qui est devant, là, au feu rouge et qui démarre pas assez vite, eh bien, ces caractères de douceur, de modération, par rapport à ce que disait Benjamin, pensez aussi à, s'il y a un verset presque identique qui est dans l'épître aux Philippiens avec une petite note qui parle de la douceur et que je trouve très, très intéressante. Je sais pas si c'est le même terme grec dans les deux, mais il y a une note du traducteur qui précise un petit peu le terme en Philippiens 4, le verset qu'on connaît bien. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Et la note, elle dit, pour caractériser cette douceur, le caractère de celui qui n'insiste pas sur ses droits. Et il me semble que c'est assez intéressant de voir ça, parce que nous, chrétiens, dans nos relations avec ce monde, dans cette modération avec laquelle nous sommes appelés à vivre, cette douceur, ce caractère de celui qui n'insiste pas sur ses droits. Ça veut sans doute pas dire qu'il faut renoncer à tous ses droits parce qu'on est chrétien. On a le privilège, la grâce, dans un pays où il y a un cadre réglementaire qui nous protège. On voit aussi, on peut voir l'exemple de Paul en acte 20 ou 21, à un moment donné, qui, je crois que c'était à Jérusalem, il dit au centurion qu'il allait le fouetter, mais tu crois qu'on peut fouetter un citoyen romain qui n'a pas été condamné? Alors le centurion puis le chidiarque sont extrêmement inquiets, et pourtant, Paul n'insistait pas sur ses droits, parce que bien tous les récits de tous ces moments victimes d'injustice où il a été arrêté, emprisonné, fouetté, battu, etc. Mais ne pas insister sur ses droits, pour nous, je pense qu'on peut tous comprendre ce que ça peut impliquer. Hier, par exemple, on donnait un titre d'exemple, l'aide du voisin. L'aide du voisin, c'est pas à la bonne hauteur, mais est-ce que je vais faire un procès pour ça? Une évaluation au travail, ça me paraît pas très juste. On n'est pas à la moindre supérieur, il veut pas changer, je fais quoi? Je vais faire un recours, un contentieux. Les enfants aussi au collège, le prof de maths, l'évaluation, elle portait pas vraiment sur ce qu'elle avait demandé de réviser. Puis il y a des élèves qui vont aller voir le principal. On fait quoi? On y va? On va dire, ce prof de maths encore. Ça, c'est peut-être insister sur ses droits. Et je pense qu'on peut tous avoir en tête des exemples de la façon qu'on peut avoir, parce que dans les relations qu'on a, et ça a été dit, je pense qu'on le vit tous, nos collègues, tous ceux qui nous voient autour de nous, ils nous voient bien avant qu'on leur parle de notre foi. Et le moment venu, si à un moment où on peut en parler, si la veille à la cantine on s'est énervé, ben c'est plus compliqué de parler du Seigneur. Et évidemment, on est on est sur la terre avec avec notre nature pécheresse aussi, on n'est pas parfait, mais on a un modèle qui lui est parfait. Et je pensais terminer à ce verset de la première épître de Pierre qui parle de notre modèle, c'est le Seigneur Jésus. Et s'il y en a bien un qui a été victime d'injustice, et ça a été dit, et qui n'a pas insisté sur ses droits de fils de Dieu, c'était bien le Seigneur Jésus. Et l'apôtre Pierre en parle en 1 Pierre 2, parlant du Seigneur Jésus, un modèle que pour avoir dans notre vie, dans la façon dont nous vivons. 1 Pierre 2, vous lire verset 23, par le Seigneur qui, lorsqu'on l'outrageait, ne rendait pas d'outrage, quand il souffrait, ne menaçait pas, mais se remettait à celui qui juge justement. Pouvons aussi le faire, nous remettre à celui qui juge justement. Peut-être penser que ce qu'on vit là, c'est peu de choses par rapport à des chrétiens, par exemple, qui vivent dans des pays où il y a de la persécution, des pays musulmans, par exemple, et qui, pour qui manifester de la douceur, de la modération, doit emporter bien plus d'enjeux que pour nous. Alors, peut-être que ça nous rend aussi plus responsables dans nos relations avec les autorités, dans nos relations aussi dans ce monde, de manifester ces versets de façon peut-être plus attentive, précisément parce que, eh bien, c'est peu de choses qui est attendu de nous, mais dans ce peu de choses, soyons fidèles parce que le monde qui nous entoure nous regarde et c'est d'abord par ce témoignage-là, la façon dont nous nous comportons, où on parlait de notre foi et de notre espérance.
Il y a quand même une limite que les apôtres ont bien mis devant l'autorité. Jugez-en vous-même dans acte 4 s'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ça, c'est la limite. Nous sommes soumis à l'autorité jusqu'à la conscience. Jusqu'à la conscience, c'est-à-dire quand l'autorité rentre en conflit avec ce qui nous est enjoint par la parole. Alors, nous soumettons à l'autorité, mais quand il y a conflit entre la volonté de Dieu et ce que nous enjoint l'autorité, alors là, nous avons à choisir. Les disciples, c'est dans Actes chapitre 4, verset 19, on leur demande de ne plus parler ni enseigner en aucune manière au nom de Jésus, mais Pierre et Jean répondant leur dire, jugez s'il est juste devant Dieu de vous écouter plutôt que Dieu. On a d'autres exemples dans la parole, je n'en citerai qu'un seul. Lorsque Nebuchadnezzar a enjoint aux trois amis de Daniel de se prosterner, c'était bien de la soumission aux autorités, mais ils ne l'ont pas fait. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une volonté supérieure qui était celle de Dieu. Quand il est enjoint de ne prier personne dans le chapitre 6, je crois, de Daniel, on doit prier personne, eh bien ça n'a pas empêché Daniel de s'agenouiller en direction de Jérusalem trois fois par jour. Pourquoi ? Parce que là, il y avait conflit entre l'autorité de Dieu et l'autorité des hommes. Mais l'esprit de contestation vient aussi d'une chose qu'il faut peut-être souligner, c'est que si nous dépendons, et qui est-ce qui peut dire qu'il est affranchi de cela ? Si nous dépendons du système du monde, ben, on sera mécontent quand ça marche mal. Et qui n'a pas vécu, même dans sa profession, il arrive une note de service et on dit « mais ça, on ne peut pas l'appliquer ». Mais si nous ne dépendons pas de ce système, mais nous dépendons du Seigneur, alors nous verrons les choses autrement. Et nous laisserons le système, on se soumettra, même si ça nous semble pas très bien tourné, on se soumettra parce que nous dépendons non pas de ce système, nous ne devrions pas dépendre d'abord de ce système, mais de dépendre du Seigneur. Il nous est dit dans les Romains au chapitre 13 que toute âme se soumette aux autorités qui sont au-dessus d'elle. N'existe pas d'autorité si ce n'est de par Dieu. On sait que dans ce temps-là, c'était Néron qui était à la tête de l'Empire romain, quelqu'un qui n'était pas forcément, même si on a peut-être exagéré le côté sanguinaire de Néron par ceux qui nous ont parlé de lui, malgré tout, c'était quand même un homme très, très opposé. Donc, même dans un cas comme ça, on est appelé à se soumettre.
lire un verset dans Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Il s'agit du Seigneur, verset 49. Et il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il me faut être aux affaires de mon Père? » Et ne comprirent pas la parole qu'il leur disait. Et il descendit avec eux et vint à Jérusalem et il leur était soumis. Voilà. Il en savait infiniment plus que et pourquoi me cherchez-vous? Et il leur était soumis. C'était sa place. Il occupait. Comprendre la grandeur de la personne qui était là et puis cette soumission. Il leur était soumis. Parce que ce qui convenait à la place qu'il avait prise, une place d'homme, l'homme parfait. Et dans ce qu'il nous est dit, dans Romains 13, il n'existe pas d'autorité. Et parce qu'il vient de Dieu, nous comprenons la chose et puis nous nous soumettons. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ça s'applique d'ailleurs à ce qui nous est dit quant à ce qui concerne ce que Pierre a dit au Sanhédrin lorsqu'ils leur ont enjoint de ne pas enseigner en ce nom-là. La deuxième chose que nous pourrons voir dans ce que nous avons ici au début de ce chapitre 3, caractère qui nous sont, ce qui nous est rappelé ici, rappelle-leur. Nous marchons dans ces choses, nous sommes ces choses, nous étions dans ces choses. Et c'est le caractère de l'homme naturel, et nous étions cela auparavant. Si notre vie est dans ce monde, notre référentiel dans ce monde, nous comprendrons qu'il n'y a pas de mal à ça. Mais notre vie est ailleurs. La vie que le Seigneur désire que nous montrions, elle est ailleurs. Alors, on a vu quelque part, et on ne s'y est pas attardé. Mais combien c'est important. Dans le chapitre 2, reniant l'impiété et le convoitisme, l'homme est sa référence, avec tout ce qui s'y attache. Il n'en est pas ainsi de ce que nous avons appris.
Une pensée au sujet de la soumission. C'est un vaste sujet. Cela nous concerne tous. On a été averti par 1 Pierre 5, en particulier que les jeunes gens doivent être soumis aux anciens. Mais, vous savez, le verset qui suit, et tous, les uns à l'égard des autres, soyez revêtu d'humilité. Humilité, c'est quand on réalise la présence de Dieu, alors que Dieu donne l'autorité. C'est remarquable parce que, en disant ces choses, je pense à ce qu'il est dit à la fin de Tite 2, verset 15, où l'apôtre Paul dit à Tite, annonce ces choses, exhorte, reprend, avec toute autorité de commander, que personne ne te méprise. Faisons attention, frère. De ne pas mépriser. que foi nos petits peuvent nous enseigner. Je vous ai envoyé Timothée, il apporte dans une épître, que personne ne le méprise. Il lui enjoint à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Bien sûr, il ajoute, mais sois le modèle des fidèles, en parole, en pureté, en conduite, et ainsi de suite. Que personne ne te méprise. La présence de Dieu donnera ce sentiment de ce qui est dû essentiellement à Dieu. Si nous avons à nous soumettre les uns aux autres, c'est bien dans la crainte de Christ. C'est lui qui a tous les droits. Encourageons-nous, frères et sœurs, à manifester quelque chose de ce que Dieu attend des siens. Parce que, comme on l'a souvent entendu autrefois dans notre jeunesse, Dieu donne ce qu'il ordonne. Tout à l'heure, nous disions, il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, parce que, en lisant ces versets, nous nous rendons compte tous que Dieu nous demande bien des choses. Un frère l'a fait remarquer ce matin. Nous sommes tous concernés. Il y a éminemment de choses dans notre vie pratique qui sont touchées par tous ces versets. Et aujourd'hui, on est là pour nous fortifier chacun par la foi qui est dans l'autre, nous enseigner mutuellement. Et comme on ne le dira jamais assez, c'est avant tout par l'exemple, n'est-ce pas? L'exemple, c'est même dans la famille, l'exemple, c'est la priorité quant à l'éducation et quant à l'enseignement d'une manière générale. Pour qui que ce soit qui est appelé à enseigner, c'est avant tout l'exemple. Qu'est-ce que ma vie montre? On l'a rappelé bien des fois, il faut ces minutes écoulées, mais il faut nous le rappeler. Il y a ce « mets-toi, sois le modèle des fidèles ». Qui peut dire qu'il n'a pas été repris dans son cœur et dans sa conscience par ce qu'il a entendu hier et ce matin? Qui peut le dire? Personne. Nous sommes tous repris, plus ou moins, dans notre conscience. Mais le Seigneur est un bon maître, et ce qu'il ordonne, il le donne. C'est pour cela qu'il est bon de se rappeler qu'il faut que le cœur soit affermi par la grâce, de telle manière que ce que Dieu me demande, je ne peux pas l'accomplir. Quant à moi, c'est une impossibilité, mais Christ en moi le fera. C'est le propre de la foi qui saisit la promesse de Dieu et comptant sur sa grâce, eh bien, nous faisons ce que le Seigneur nous demande. Et quand nous l'avons fait, nous l'avons tous expérimenté dans notre petite mesure. Seigneur, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est toi. Et toujours, quand il en est ainsi, la gloire revient au Seigneur.
Le début du verset 3 est très significatif aussi pour nous. Nous le relisons, car nous étions nous aussi autrefois insensés, désobéissants, etc. L'apôtre Paul rappelle à diverses reprises dans ses épîtres ce qu'il en était autrefois pour lui-même. Il considère le premier épître à Timothée comme le premier des pécheurs, mais miséricorde m'a été faite. C'est quelque chose dont nous devons nous souvenir, d'où nous avons été tirés. Bien sûr, nous avons beaucoup plus que cela à réaliser dans notre vie chrétienne avec le Seigneur et pour lui. Mais nous disons cela parce que ce « nous aussi » nous parle. Quand nous rencontrons sur notre chemin, dans les rues, quelqu'un qui est assis à la porte d'un magasin, qui mendie, on voit bien qu'il est malheureux, n'est-ce pas? Il y a peut-être quelque chose à dire ou à donner si nous avons un traité avec nous. Nous ne devons pas mépriser quiconque. Dieu ne méprise personne. C'est une leçon importante. Nous sommes grandement privilégiés dans tout ce que le Seigneur nous a donné, de pouvoir nous réunir autour de lui, dans le culte, dans la réunion de prière, l'édification, l'étude de sa parole. Mais prenons garde de ne pas oublier d'où nous avons été tirés, ce que nous étions, nous le rappelons bien sûr. Et c'est à la croix de Christ que nous voyons cela. Parce que c'est là que nous voyons l'abîme où nous nous trouvions, loin de Dieu, et l'immensité de sa grâce pour nous sauver pour l'éternité et faire de nous de bien-aimés enfants, des adorateurs que son cœur a désirés, des rachetés du Seigneur, membres de son corps, faisant partie de son épouse qu'il vient chercher. Ne pas mépriser personne. L'apôtre Paul le redit souvent, qu'il était moins que le moindre des apôtres. Et il se considérait, sur ce plan-là, effectivement, le premier des pécheurs, parce qu'il avait persécuté l'Assemblée. La chose était réglée entre le Seigneur et lui. Il avait été pardonné, le Seigneur lui avait confié ce ministère spécialement envers les nations, mais aussi pour faire connaître ce mystère caché dès les siècles de l'Église unie à Christ. Mais prenons garde de ne pas oublier ceux qui sont dans leur péché encore loin de Dieu, qui n'ont pas d'espérance dans ce monde. Nous étions tels, même ayant été élevés dans des familles chrétiennes. Nous aussi. Eh bien, ensuite, nous étions autrefois, etc. Je pense à ce passage bien connu aussi de l'Épître aux Éphésiens, où nous trouvons cette même pensée au chapitre 2. Que dit l'apôtre aux Éphésiens, verset 1er. Et vous, nous, lorsque vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés, voilà l'état où nous étions. Pas autre chose, vivant dans la chair, oui, nous n'avions que cela, mais morts dans vos fautes et dans vos péchés, dans lesquels vous avez marché, nous avons marché, autrefois, selon le train de ce monde, etc. Suite du verset, et puis verset 3. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, nous connaissons la suite. Ah, ces mais, combien ils sont précieux pour le cœur du croyant. Début de l'Épître aux Romains, Dieu donne l'état de tout homme loin de Dieu, personne qui fasse le bien, tous se sont détournés. Et puis, il y a ce mais merveilleux qui nous parle de la foi en Jésus-Christ. Et d'ailleurs, ici, dans notre Épître à Tite, au milieu, à la fin du verset 3, nous lisons encore ce « mais », un « mais » magnifique, « mais quand la bonté de notre Dieu Sauveur et son amour envers les hommes sont apparus, il nous sauva. » Chers amis, chers jeunes, il n'y a pas un jour, et disons-le, bien que nous sommes loin de le réaliser, où nous ne puissions pas rendre grâce d'un cœur rempli par l'Esprit de l'amour de Dieu, de l'amour de son Fils, pour reconnaître ce que nous étions, ce qu'il a fait de nous, et bien sûr, on l'a lu à la fin du chapitre 2, de cette bienheureuse espérance, quelque chose qui devrait aussi toucher nos cœurs bien davantage. Encourageons-nous, exhortons-nous à regarder en haut vers celui qui est toujours vivant pour intercéder pour nous. Il connaît tout ce que nous sommes. On le rappelait ce matin, toutes choses sont nues et découvertes aux yeux de celui à qui nous avons affaire. Mais quelle grâce, quelles que soient les circonstances qui peut-être nous étreignent, nous oppressent, ou peut-être dans un chemin où tout semble aller bien et nous oublions que le Seigneur est là, qu'il nous voit, qu'il nous suit, qu'il nous aime et qu'il nous garde, qu'il veut nous garder. Eh bien, que nous ayons dans nos cœurs cette pensée qui vient d'en haut de nous remettre à ses soins, de voir d'où nous étions, où nous étions, d'où nous avons été tirés, ce qu'il a fait de nous, et qu'est-ce qui est devant nous. Dans un instant, d'un clin d'œil, peut-être nous serons tous ensemble avec lui. Dieu seul le sait. Marchons dans la présence du Seigneur et pensons à ceux qui, autour de nous, n'ont pas connu encore cela.
Je voudrais juste rappeler à nos cœurs un autre « mais » de l'Épître aux Éphésiens au chapitre 2, verset 4. Éphésiens 2, verset 4. « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour dont il nous a aimés, alors même que nous étions morts dans nos fautes, nous a vivifiés ensemble avec le Christ. Vous êtes sauvés par la grâce et nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes dans le Christ Jésus. On vient d'entendre ce début du verset du chapitre 3. Car nous étions, mais quand la bonté de notre Dieu Sauveur et son amour envers les hommes sont apparus, et il y a une fin, et on la trouve dans le verset 7, afin que, ayant été justifiés par sa grâce, nous devincions héritiers selon l'espérance de la vie éternelle. Il y a ce que nous étions, le mais de maintenant, mais il y a cet héritage si beau, nos yeux fixés là où il y a le Seigneur Jésus maintenant, attendant juste un ordre pour venir nous chercher. C'est assez remarquable qu'on trouve aussi dans l'Ancien Testament le même principe de se rappeler d'où on vient pour ici, dans Tite, agir en grâce à l'égard des incrédules. Dans l'Ancien Testament, on trouve, quand on se présente, quand il viendrait dans le pays, dans Deutéronome 26, quand il viendrait à jouir des choses qui sont du pays et qu'ils amènent leur corbeille, il est assez remarquable qu'il fallait qu'ils disent d'où ils venaient. 26, verset 5. Et tu prendras la parole et tu diras devant l'Éternel ton Dieu, mon père est un Araméen qui périssait. Nous étions tous dans nos fautes et dans nos péchés. Et il descendit en Égypte avec peu de gens et y séjourna. Il devint une nation grande et forte et nombreuse. Et les Égyptiens nous maltraitèrent, nous humilièrent, nous imposèrent un dur service. Et nous criâmes à l'Éternel, le Dieu de nos pères, et l'Éternel entendit notre cri et vit notre humiliation, notre labeur, notre oppression. Et l'Éternel nous fit sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus, avec une grande terreur, avec des signes et des prodiges. Et il nous a fait entrer dans ce lieu-ci et nous a donné ce pays. Tout est grâce. Tout est grâce. Et si nous devons agir avec douceur avec tous les hommes, parce que tout est grâce à notre égard, il faut s'en souvenir.
Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais je peux dire que ça m'est arrivé plusieurs fois. Vous pensez à ce que le Seigneur a fait pour vous et ça vous fait ni chaud ni froid. Oui, le Seigneur m'a aimé, bon, puis après, c'est peut-être au culte même. Vous dites oui, bon, le Seigneur a été à la croix, puis bon, il n'y a pas grand-chose. Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé ça. D'habitude, on banalise les choses. Mais pourquoi est-ce que je suis atteint par un état comme ça? Pourquoi est-ce que ça ne fait pas éclater mon cœur en reconnaissance? Pourquoi j'ai banalisé cela? Simplement parce que j'ai oublié la purification de mes péchés d'autrefois et d'où je viens. Notre frère, je crois que c'est McIntosh, qui écrit quelque part, plus nous réaliserons notre état de perdition. Et dans la même mesure, nous réaliserons la grâce, l'amour dont nous avons été des objets. Nous réaliserons l'élévation à laquelle nous avons été amenés en réalisant en même temps la profondeur dont nous avons été tirés. Les choses vont ensemble. Mais quand je n'ai pas une opinion très mauvaise de moi, finalement, je ne suis pas plus mauvais que mon voisin. Eh bien, la grâce passe sur mon cœur, mais rien du tout, ni chaud ni froid. Alors nous avons besoin de ne jamais oublier, comme nous dit la deuxième épître de Pierre, je crois, la purification, c'est au chapitre 1, verset 9, ayant oublié la purification de nos péchés d'autrefois. Et quand nous sommes au culte, souvenons-nous de cette chose que nous avons peut-être banalisée, c'est que nous ne pouvons pas nous désolidariser de ceux qui ont mis le Seigneur sur la croix. Pas désolidariser, on est cela, on est cela. Et cela devrait imprimer en nous profonde contrition, d'être d'accord avec Dieu sur ce que nous sommes en Adam, mais en même temps, ouvrir notre cœur à cette grâce qui m'a pris si loin pour amener jusqu'où je suis. Un mot sur les deux premiers qualificatifs, c'est insensé. Insensé, c'est le domaine des pensées. On sait qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont insensés. L'insensé, psaume 14, sauf erreur de ma part, a dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. C'est insensé. C'est insensé, c'est une folie. Il suffit de regarder par une nuit étoilée l'infini du ciel et de voir en même temps une petite mouche qui vous se pose sur votre main, sa patte, pas plus épaisse qu'un de vos cheveux, qui va lisser ses ailes. On s'en débarrasse peut-être, mais le Dieu de l'infiniment grand, le Dieu de l'infiniment petit, on dit que même Einstein, qui n'était peut-être pas un croyant, mais quand même un déiste, il a dit que l'univers soit le résultat du hasard est aussi crédible que si dans l'explosion d'une imprimerie, tous les caractères tombaient dans l'ordre du dictionnaire. Et c'est à peu près la proportion, la probabilité qui est folle. Ben, c'est de l'insensé. Et puis nous avons ce terme aussi, qui n'est plus le domaine des pensées, mais celui de la marche, désobéissant. Nous sommes, il y a les fils de la désobéissance. C'est le caractère essentiel de l'homme. Désobéissance à qui? On dirait aux parents, ceux qui ont des jeunes enfants, vous savez que très vite, très très vite, l'enfant va s'opposer. L'enfant, c'est génétique, je dirais presque. Dans le péché, ma mère m'a conçu. Cette désobéissance, et le Seigneur s'est présenté en rupture totale avec le reste de l'humanité, les milliards d'hommes qui ont passé sur la terre, fils de la désobéissance, Éphésiens 2 nous parle des fils de la désobéissance, nous en faisons partie, nous avons conversé là-dedans aussi. Bien, le Seigneur s'est présenté comme l'homme obéissant. Quand l'obéissance pour la joie de Dieu a pris la forme de l'homme Christ Jésus. Pris la forme de l'homme Christ Jésus, ce que Dieu a vu alors. En contraste avec les fils de la désobéissance. Eh bien, on était ça. Et nous le sommes par nature, prêts à nous opposer à l'autorité aussi. Vous étiez désobéissants. Nous sommes par nature désobéissants. Et cette nature, hélas, nous la traînons jusqu'à notre dernier souffle.
On peut peut-être dire aussi que ce verset 3, il est un petit peu charnière entre le verset 1 et 2, qui nous parle de cette soumission que nous devons aux autorités, aux principautés, aux autorités. Et peut-être qu'il fait un peu une continuité avec le chapitre 2, et puis avec la suite, à partir du verset 4. Parce que le verset 3 commence par « car nous étions nous aussi ». Le « car » sous-entend sans doute que les principautés et les autorités qui étaient placées au-dessus de Tite et puis de ces chrétiens de Crète étaient pas forcément bienveillantes, pas forcément justes, pas forcément morales, et donc que ça nécessitait d'avoir ces qualités qu'on a vues d'ailleurs dans les chapitres précédents. Et il y a cette parenthèse du verset 3, qui nous dit « car nous étions nous aussi autrefois insensés ». Et donc on comprend que les chrétiens à qui était écrite cette lettre Il devait être converti depuis quelques années. Dans l'histoire, on a dit que c'était une lettre qui avait été écrite environ dans les années 64-65, après la naissance du Seigneur. Et donc, c'était nouveau converti. Mais il faut quand même dire aussi que ce sont des versets qui sont un peu difficiles à lire quand on est né dans une famille chrétienne. On en parlait à midi. Insensé, désobéissant, égaré, asservi à diverses convoitises et voluptés, vivant dans la malice et dans l'envie. Quand on lit ça en 2022 et qu'on est né dans une famille chrétienne et qu'on a eu, par grâce, on est né dans une famille chrétienne et qu'on a eu des parents qui nous ont élevés, on a peut-être des difficultés à identifier la date de sa conversion, en tout cas la date précise, et le comportement que nos parents nous ont enseigné, nous a appris, ressemble très fortement à un comportement chrétien, et heureusement. Et finalement, on ne voit pas trop de charnière entre ces comportements, donc asservis à diverses convoitises et voluptés. Sans doute ce que je viens de dire est à nuancer. Alors que peut-être dans la salle, il y en a sans doute plusieurs qui ne sont pas nés dans une famille chrétienne, et on peut dire aussi peut-être, sans doute, par grâce, ne sont pas nés dans une famille chrétienne, et voient très bien cette transition. Et donc elle est, comme on l'a dit, très utile pour chacun de nous de comprendre ce que nous étions, soit que nous l'ayons expérimenté parce que nous n'avons pas été élevés par des parents chrétiens, ou soit que nous ne l'ayons pas expérimenté parce que nous sommes nés dans une famille chrétienne. Et il est très important d'y revenir. Et donc cette parenthèse est de mon sens assez fondamentale par rapport à ce qui est dit au-dessus, c'est-à-dire que ces autorités qui sont au-dessus de vous, elles sont comme vous étiez autrefois. Et donc, vous avez à vous comporter différemment. Et ça introduit la suite. Donc, c'est une parenthèse qui introduit la suite avec l'œuvre divine envers les croyants, qui est accessible à tous les hommes, mais envers les croyants, c'est-à-dire la bonté de notre Seigneur qui nous a sauvés. Et puis ensuite, le lavage de la régénération, donc la nouvelle naissance, le renouvellement de l'Esprit-Saint. Et tout ça, donc, pour se comporter comme on a vu jusqu'à maintenant, ce n'est pas avec la propre volonté, avec le fait de décider de se comporter ainsi de manière vertueuse. C'est seulement en prenant conscience que nous étions comme ça, nous sommes par nature comme cela, même si on ne l'a pas expérimenté, et qu'on a besoin de l'œuvre divine, on a besoin du lavage de la régénération, du renouvellement d'Esprit-Saint, d'être fait un nouvel homme, d'avoir cette nouvelle naissance pour être capable de se comporter ainsi de manière qui plaît au Seigneur.
C'est un risque, en effet, que ceux qui ont été super protégés dans des familles chrétiennes, qui n'ont pas, selon l'expression de la parole, connu les profondeurs de Satan, puissent développer une espèce de propre justice. Nous sommes en danger de cela, et nos jeunes sont en danger de cela. Quelqu'un qui vient de la drogue et qui vient de la prostitution, il n'y a pas de problème. Le jour où il se convertit, il comprend ce qu'est le monde et ce qu'il est. Le Saint-Esprit lui montre cela, mais quand on a toujours été protégé dans une famille chrétienne, peut-être qu'on a souscrit dans la lecture de famille à ce que la parole dit, parce qu'on n'a pas lieu de penser que nos parents nous disaient des choses fausses, mais les choses peuvent se faire, comme disait tout à l'heure Pierre-Joël, tout à fait en douceur, mais en même temps, un jour, il faudra bien que le Saint-Esprit nous montre la profondeur de notre cœur. Et quelquefois, pour les enfants de chrétiens, la nouvelle naissance passe en douceur, et comme l'a dit Pierre-Joël, on peut pas toujours même déterminé dans le temps, le jour où on a passé de la mort à la vie. Ça s'est fait progressivement, on n'a jamais en doute ce que disaient les parents. Mais seulement il y a un jour où le Seigneur, parce qu'il nous aime, se charge de nous, pour nous montrer, viens, maintenant on va descendre un peu dans ton cœur, et tu vas voir ce qu'il y a au fond de ton cœur, et que finalement tu ne vaux pas mieux que celui qui s'est vautré dans la drogue, ou dans tous les débordements qui sont dans le monde. Et ça, c'est une expérience fondamentale. Une expérience, on ne peut que supplier Le Seigneur, que tous nos jeunes ici fassent cette expérience-là, qu'on ne mise plus sur l'homme, qu'on comprenne que l'homme a été complètement mis de côté à la croix, que nous soyons d'accord avec Dieu sur le jugement qu'il a porté sur l'homme dans la chair et sur moi-même. C'est quelque chose de fondamental. C'est quelque chose de fondamental dans notre vie chrétienne, dans votre vie chrétienne, de comprendre que l'homme, avec le plus sympathique du monde, Dieu ne peut rien en faire. Et que nous soyons d'accord avec des énumérations comme cela, n'est-ce pas, nous sommes cela, et que le Saint-Esprit nous rende ces choses tout à fait pour nous, que ce n'est pas quelque chose de général, les hommes sont comme ça. Non, mais je suis comme ça, moi. Je suis fondamentalement, génétiquement désobéissant. Je suis opposé à Dieu 100%. Et c'est alors, dans cette mesure-là, n'est-ce pas, que réalisant notre mort avec Christ, nous pouvons aussi réaliser la vie de Christ. On ne peut pas vivre en ressuscité sans être d'abord mort. Pas possible. Vous ne ressuscitez pas si vous n'avez pas été mort. Et si vous voulez vivre de cette vie de résurrection à laquelle nous sommes tous appelés, il faut d'abord que nous réalisions cette mort avec Christ. Je suis crucifié avec Christ. Tout ce que je suis et tout ce dont je peux peut-être me vanter naturellement, ça a trouvé sa fin lorsque Christ a été frappé. Lorsque Dieu a frappé Christ à la croix, il a dit exactement ce qu'il pensait de vous et de moi.
Si nous n'avons effectivement pas ce sentiment d'avoir eu des grands péchés, d'avoir vécu comme nous l'avons vu ici au verset 2-3, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui doit quand même nous faire rentrer en nous-mêmes? Je suis né dans une famille chrétienne, comme beaucoup, quel privilège. Dieu le savait. Et Dieu savait aussi que malgré ces privilèges que j'ai eus, j'ai été si peu à la hauteur de ces privilèges que Dieu m'a donnés. Et alors nous réalisons, malgré que le Seigneur savait que je n'allais pas beaucoup évangéliser, que je n'allais pas montrer une vie très honorable, malgré cela, il m'a sauvé. Et en effet, cette grâce, elle est là jour après jour. Et regardons dans ces versets 4 à 7, il nous est parlé de la bonté de notre Dieu Sauveur. Il nous est parlé de son amour. Il nous est parlé de sa miséricorde. Il nous est parlé de sa grâce. Est-ce que nous sommes réellement conscients que moi, tel que je suis, eh bien Dieu m'a manifesté cet amour, cette bonté, cette grâce, cette miséricorde. Lorsque le Seigneur est mort à la croix, aussi, hier, aujourd'hui, et ce sera encore le cas demain. Alors, mon cœur doit être rempli de reconnaissance, parce que comme cela a été dit, je ne mérite pas plus qu'un autre la foi d'être sauvé, malgré les privilèges que j'ai eus. Au contraire, je devrais montrer bien plus que je suis un racheté, quelqu'un qui a eu une faveur exceptionnelle. Et nous est dit pourquoi. Verset 8, cette parole est certaine, afin que ceux qui ont cru Dieu s'appliquent à être les premiers dans les bonnes œuvres. Voilà le résultat de cette connaissance, de cet amour, de cette faveur qui est la nôtre. Le résultat, afin que nous nous appliquions à être le premier dans les bonnes œuvres. Il y a beaucoup de choses, nous devons nous appliquer. Cela demande un effort. Nous l'avons entendu, pas un effort de nous-mêmes, mais avec le Saint-Esprit, mais ça demande un effort de s'appliquer. Et puis, à être les premiers dans les bonnes œuvres. Nous avons lu aussi au chapitre 2, fin du chapitre 2, il nous est parlé là encore, donc verset 14, notre grand Dieu Sauveur Jésus et Sauveur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous afin qu'il nous racheta de toute iniquité et qu'il purifia pour lui-même un peuple acquis, zélé pour les bonnes œuvres. Il y a encore ce afin, un peuple acquis, zélé pour les bonnes œuvres. Est-ce que je suis zélé? Oui, j'en fais peut-être de temps en temps.
Oui, je fais des bonnes œuvres
par-ci, par-là,
quand j'ai envie.
Mais est-ce que je suis gêné pour les bonnes œuvres? Cela demande de l'énergie, du travail. Cela demande une communion avec le Seigneur aussi. On a déjà parlé des bonnes œuvres et on a lu dans d'autres passages, mais là encore, identique, il est parlé 6 fois des bonnes œuvres. Bien que le Seigneur nous donne de marcher dans ces bonnes œuvres. Nous avons rappelé, nous n'avons pas à les chercher. Elles sont préparées à l'avance pour nous. Que nous puissions, par reconnaissance, pour l'amour de Dieu, pour le fait d'avoir été sauvés alors que nous ne le méritions pas, que le Seigneur nous donne par reconnaissance de marcher dans ses bonnes œuvres, d'être zélés et de nous appliquer à être les premiers dans ses bonnes œuvres.
Lisons un verset dans l'évangile de Marc, chapitre 14, verset 6. Marc 14, verset 6. Mais Jésus dit, laissez-la, il s'agit de Marie, Marie de Béthanie, laissez-la, pourquoi lui donnez-vous du déplaisir? Elle a fait une bonne œuvre envers moi. Soulignons ce « envers moi ». Une bonne œuvre, Dieu les prépare. Il prépare le serviteur qui va l'accomplir, s'il est fidèle, s'il écoute la voix du Seigneur. Mais les bonnes œuvres sont d'abord et avant tout envers Dieu, envers le Seigneur Jésus. On en a ici une illustration dans la déclaration aussi simple que grande du Seigneur qui dit cela devant les disciples, qui tous, et Judas en tête, indignés de ce que cette femme avait mis sur les pieds la tête du Seigneur, de ce que cela représentait en valeur pour l'homme, mais pour le cœur du Seigneur. Quel prix avait cette bonne œuvre? Elle seule, conduite par Dieu, avait saisi ce que personne d'autre n'avait pu voir. Elle a fait cela, dit le Seigneur, pour le jour de sa sépulture. Elle avait anticipé ce qui allait être sa part si peu de temps après. Marie avait été formée par le Seigneur. Assise aux pieds de Jésus, elle avait écouté sa parole. Elle avait entendu cette voix de consolation quand elle avait vu son frère mort. Aussi comme Marthe. Elle avait vu Jésus pleurer. Elle avait vu ressusciter son frère. La gloire de Dieu était là. Et maintenant, sans une parole, elle fait ce qui était juste et au bon moment. Elle a fait cette bonne œuvre envers moi. Pensons aussi que dans ce que le Seigneur place devant nous et qui est selon lui et que nous avons à faire, de sa part, pour ceux qui nous entourent, nos frères et sœurs d'abord, mais aussi, bien sûr, dans ce monde, eh bien, le Seigneur regarde. Quoi que vous fassiez, faites tout au nom du Seigneur, et non pour les hommes. Oui, pour les hommes, dans un sens, bien sûr, mais pour le Seigneur. Et puis, il est ajouté dans ce passage que nous connaissons, vous servez le Seigneur Christ. Ce n'est pas rien. Il est le Maître, notre Maître. Vous m'appelez Seigneur et Maître, dit le Seigneur aux disciples. Vous dites bien, car je le suis. Mais, ça a été dit tout à l'heure, notre Seigneur et Sauveur est non seulement un bon Maître, il est le bon Maître, celui qui nous a acquis si chèrement. Dans le ciel, nous aurons une occupation, nous le savons, c'est l'adoration. Quelque chose qui ne passera jamais.
Quel bel exemple, en effet, que celui de Marie, dont il est dit, on vient de nous le rappeler, ce qui était en son pouvoir, elle l'a fait. Une bonne œuvre. Et puis dans Matthieu 26, il est dit, elle a fait cette œuvre envers moi. c'est Matthieu 26, verset 10, je crois. Matthieu 26, verset 10, elle a fait une bonne œuvre envers moi. Quelque chose qui est fait pour le Seigneur. J'aimerais donner peut-être dans l'Ancien Testament deux exemples de bonnes œuvres qui ont été accomplies. On pense sans doute à ce qu'ont fait ces trois hommes forts de David dans le chapitre 23 de 2 Samuel. Simplement cette question de David d'abord. 2 Samuel 23, verset 15. David convoita et dit « Qui me fera boire de l'eau du puits de Bethléem qui est près de la porte ?» Verset 16, et les trois hommes forts forcèrent le passage à travers le camp des Philistins et puisèrent de l'eau du puits de Bethléem qui est près de la porte et la prirent et la portèrent à David. À la fin du verset 17, ces trois hommes forts firent cela. Quel exemple de quelque chose qui a été fait pour le Seigneur. Pour nous croyants, c'est ces bonnes œuvres préparées à l'avance afin que nous marchions en elles. Et les hommes n'ont pas raisonné. On pense à ce verset aussi de Philippiens, Philippiens 2, verset 14, « Faites toutes choses sans murmure et sans raisonnement. » Un autre exemple pour un roi pieux, Ézéchias, en 2 Chroniques, chapitre 31. 2 Chroniques 31, à la fin du chapitre, nous savons que ce livre de Chroniques passe sous silence les défaillances d'Ézéchias à la fin de sa vie, mais il est dit au verset 21, et dans toute l'œuvre qu'il entreprit, dans le service de la maison de Dieu et dans la loi et dans les commandements pour rechercher son Dieu, il agit de tout son cœur, dans toute l'œuvre qu'il entreprit et de tout son cœur. C'est aussi un verset dans l'Ecclésiaste, au chapitre 9. Pour Marie, il a été dit, si était en son pouvoir, elle l'a fait. Dieu ne demande pas quelque chose qui n'est pas possible, qui est trop difficile pour nous. Et il est dit dans Ecclésiaste 9, verset 10, « Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le selon ton pouvoir. » Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Ce matin, il a été rappelé dans 2 Timothée 2, au sujet d'être préparé pour toute bonne œuvre. Je rappelle ce verset de Timothée 2. Et je vais la faire remarquer qu'il y avait cette séparation du mal, se retirer de l'iniquité, verset 20. Et puis il est dit, « Et quelqu'un se purifie de ceci, il sera un vase à honneur, sanctifié, utile au maître, préparé pour toute bonne œuvre. » Préparé pour toute bonne œuvre. Et dans la même épître, il y a encore, on pourrait dire, une condition à la fin du chapitre 3, où il y a de nouveau l'expression « toute bonne œuvre ». Mais auparavant, que dit Paul à Timothée, verset 14, « Mais toi, demeure dans les choses que tu as apprises et dont tu as été pleinement convaincu. Demeure dans ces choses. » Dans Psaume 119, il y a un verset qui dit « Ta parole est établie à toujours. » N'est-ce pas la suprême ressource de tout croyant, de tout fidèle, qui désire, comme dit, exhorter ses crétois, être à la fois le modèle de bonnes œuvres. Je crois qu'on a fait allusion aussi à ce qui est dit à Timothée, oui, dans 1 Timothée, au chapitre, il est appelé aussi à être un modèle, 1 Timothée, chapitre 4. Il y a ces précieuses exhortations qui lui sont données à être un bon serviteur, nourri dans les paroles de la foi et de la bonne doctrine qu'il avait pleinement comprise, à enseigner. Et puis, il est parlé de modèle. Enseigne-les et que personne méprise sa jeunesse, mais soit le modèle des fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Chacun de ces termes est à méditer certainement.
Et le premier, d'ailleurs, c'est en parole. Le dernier verset auquel nous pensons, c'est dans Colossiens. La prière de l'apôtre pour ses chers Colossiens, il demande dans sa prière, nous relisons ce verset au chapitre 1er, Colossiens 1, verset, on peut commencer au verset 10, milieu du verset 9, que vous soyez remplis de la connaissance à volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, pour lui plaire à tous égards, portant du fruit en toute bonne œuvre et croissant à la connaissance de Dieu, étant fortifié en toute force, en la puissance à gloire, pour toute patience et constance avec joie.